Le monde s'apprête à enterrer 2024 pour accueillir l'année 2025, une transition célébrée de diverses manières en fonction des rites et traditions liées à chaque pays. En Turquie, certaines traditions remontent à l'Empire ottoman. Expatrié à Istanbul depuis 2017, Jérémy Delattre est le cofondateur avec Julien Delannoux de Clineva, une clinique de greffe de cheveux. Explication.
En Turquie, on regroupe Noël et Nouvel An. On célèbre principalement Nouvel An donc en famille. Il y a par exemple un échange de cadeaux. C'est assez traditionnel. Hein. C'est un peu comme on peut voir dans l'Occident. Des fois, les personnes peuvent mettre des décorations, des sapins de Noël. Il y a juste tout ce qui est crèche lié à la religion chrétienne qui n'est pas présent. Mais sinon, ça s'est assez occidentalisé. On peut manger également de la dinde rôtie. Voilà, c'est devenu assez populaire ces dernières années en Turquie. On fait un repas très copieux, une espèce de festin avec des mezze. Donc les mezze, ce sont des petites entrées, tout simplement, qu'on dispose partout sur la table et qu'on partage. Les mezze, ça peut être du chaud, du froid. Il y a par exemple du houmous, tout ce qui est sarma. Le sarma, en fait, c'est du riz enveloppé dans une feuille de vigne. Il y a également les dolmas. Donc les dolmas, c'est la même chose, mais cette fois-ci dans des poivrons. Donc on met beaucoup de riz, d'épices, etc. Il y a également tout ce qui est dessert, les baklava, les fameux baklava turcs. Ben, c'est vraiment un festin qu'on partage. Parce qu'en Turquie, il y a vraiment cette notion de partage. Quand il y a des événements spéciaux comme, par exemple, le Nouvel An, c'est l'occasion de retrouver toute sa famille, ses amis autour d'un grand buffet.
Est-ce qu'il y a des rituels en dehors des repas ?
Et il y a également des petites traditions, des petits rituels dont je n'ai jamais entendu parler dans d'autres pays. Il y a notamment le fait de porter du rouge. Je sais que j'avais des amis qui disaient, ben voilà, pour attirer la chance et la prospérité pour l'année à venir, il y a des amis qui mettaient soit du rouge, donc visible, ou même, par exemple, des sous-vêtements. Mettre un sous-vêtement rouge la veille du Nouvel An, ça peut attirer la chance pour la nouvelle année. Et ensuite, il y a une petite tradition assez sympa, assez originale, c'est le fait de lancer de l'eau pour la nouvelle année. Donc à minuit, en fait, il y a toujours une tradition, ça dépend des régions en Turquie, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui le font. En fait, pour s'attirer des bonnes choses, on jette de l'eau comme ça, un verre d'eau, soit par terre, soit dehors, par la fenêtre. Et en fait, c'est un acte assez symbolique pour inviter la prospérité et éloigner un petit peu les mauvais esprits. Donc le fait de verser de l'eau, ça permet d'attirer quelque chose de nouveau et chasser, on va dire, toutes les énergies négatives de l'année passée et passer à une nouvelle année. On le fait souvent aussi quand on part en voyage. Moi, une fois, ça m'avait surpris. Je repartais en France et j'avais une amie qui, avant de partir, avait jeté de l'eau derrière le taxi. Je suis parti en taxi, elle avait pris un verre d'eau et elle a jeté un verre d'eau. Et c'est pour, entre guillemets, montrer que voilà, il faut que le voyage soit fluide. Il faut que ton voyage soit aussi fluide que de l'eau. Et donc, pour la nouvelle année, c'est un petit peu la même chose. Pour que l'année arrive, soit aussi fluide que l'eau et on jette un petit verre d'eau.
Le verre d'eau se jette par terre, mais pas sur les personnes.
Non, bien sûr, c'est jeté à côté, ça peut être par la fenêtre, ça peut être par terre. Là, par exemple, quand moi j'étais parti, c'était derrière le taxi, je pars et elle jetait un verre d'eau. Et souvent, les gens, quand ils sont dans leur appartement ou chez eux, ils jettent par la fenêtre, par exemple. Et c'est un petit acte symbolique pour montrer que l'eau, c'est fluide, ça coule. Et donc, pour que l'année qui arrive coule de source, par exemple, et qu'il n'y ait pas d'embûche pendant la nouvelle année.
Il y a aussi des traditions locales spécifiques à certaines régions du pays.
Exactement. Quelque chose que moi, je n'ai pas vécu, mais j'en ai parlé à des employés de la clinique. Et il y a une personne qui m'a dit aussi, ils avaient l'habitude de faire un petit rituel à Nouvel An dans certaines régions de Turquie. C'est de casser une grenade, le fruit qui est assez connu ici en Turquie. Et donc, casser une grenade au niveau de la porte d'entrée, en fait, pour assurer une année prospère et fertile. Donc, c'est la signification qu'une de mes employées m'a donnée.
La grenade est un symbole de la prospérité.
Exactement, et de la fertilité, elle m'a dit aussi.
Est-ce que les Turcs célèbrent dans les rues ou les lieux publics ?
À Nouvel An, pour les personnes qui ne restent pas chez eux, qui ne restent pas en famille, qui préfèrent aller à l'extérieur et aller dans des restaurants, il y a souvent des concerts de musique traditionnelle célébrés pour la nouvelle année. Et donc, en fait, souvent, il y a un groupe de musiciens qui vient et qui ont des instruments assez typiques, assez traditionnels. Il y a par exemple une guitare à trois cordes qui s'appelle le saz. Souvent, il y a un des trois membres du groupe qui a cette petite guitare traditionnelle. Il y a aussi souvent quelqu'un qui a un zurna, c'est une espèce de longue flûte, une longue clarinette, on va dire, avec le bout qui est beaucoup plus ouvert. Et donc, c'est un bruit assez typique. Ça me fait penser souvent à l'instrument typique qu'il y avait à la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Cette petite flûte qui faisait un bruit, mais là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Une espèce de flûte, de clarinette qui a un bruit assez typique.
L'instrument sud-africain, c'est la vuvuzela.
Ah oui, c'est ça, exactement, c'est particulier. Et il y a aussi le darbuka, un espèce de djembé, de petit tambourin qui met le rythme. Donc voilà, il y a un instrument à cordes, le saz, il y a l'instrument avant, voilà, on souffle dedans, le zurna, et des espèces de petits tambourins qui s'appellent des darbuka. Ce groupe de musique, souvent, est présent lors des gros événements comme le Nouvel An. Et il y a également aussi les fameuses danseuses du ventre qui, souvent, dans les restaurants, passent de table en table. C'est un peu, on va dire, en rapport au passé, à l'héritage ottoman de la Turquie. Et donc, il y a beaucoup de spectacles qui incluent des danses rythmées, des femmes qui font la danse du ventre. Et c'est accompagné, bien sûr, de ce petit groupe de personnes avec les instruments traditionnels dont je parlais juste avant.
Est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution des demandes de greffe capillaire en cette période de fin d'année en Turquie?
Oui, oui, j'en suis témoin. Cette semaine même, c'est notre semaine record chez Clinéva en termes de nombre de patients, parce qu'en fait, les patients profitent souvent de cette période de fête de fin d'année, parce qu'il y a notamment les vacances scolaires, et la période hivernale, c'est toujours un moment assez propice pour nos patients, étant donné que le temps fait qu'on reste souvent chez soi, on a moins tendance à sortir, on est un peu plus casanier durant cette période de l'année, et donc souvent les patients privilégient cette période-là pour tout ce qui est post opératoire, on doit quand même rester un minimum isolé, faire attention, ne pas trop sortir, ne pas faire de sport. Et donc la période est très propice à ça. Et également parce que c'est 6-7 mois avant l'été, avant le mois de juillet et le mois d'août. Et donc c'est parfait parce que pour la greffe de cheveux, il y a toujours un petit temps de rétablissement avant de voir les premiers résultats. Et donc comme ça, les patients peuvent avoir une belle chevelure dès l'été qui arrive plusieurs mois après.
Alors, donc, il y a une augmentation. Et est-ce qu'il n'y a pas une question de prix aussi, de réduction des prix?
Dans notre clinique Clinéva, on ne fait pas de prix. Ça reste quand même du médical. Donc, nous, il n'y a pas d'offres, etc. Je sais qu'il y a certaines cliniques qui peuvent attirer plus de patients en faisant des réductions. Mais chez nous, comme ça reste un acte médical, on ne négocie pas spécialement le prix. On ne fait pas de discount ou de réduction pendant cette période de l'année. Et en plus, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à cette période-là. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de proposer un prix plus avantageux en cette période de l'année.
Vous êtes entrepreneur en Turquie, vous êtes français. Est-ce que c'est facile pour un expatrié de monter son business en Turquie? Est-ce qu'il faut absolument avoir un partenaire local, par exemple?
Pour le côté partenaire local, donc quelqu'un de turc pour la clinique, pas vraiment. En fait, pour ouvrir une société en Turquie en tant qu'étranger, on n'a pas besoin d'avoir d'associé turc. Mais nous, c'est assez spécifique, comme nous sommes une clinique de greffe de cheveux, on a besoin absolument d'avoir un docteur qui soit responsable à la tête de la licence. En fait, il nous faut une licence pour pouvoir opérer, pour pouvoir effectuer des actes chirurgicaux. Et nous, en tant qu'étrangers et qui ne sommes pas spécialisés dans le domaine médical, nous n'avons pas de diplôme dans ce domaine-là, il nous faut absolument un représentant, mais c'est vraiment spécifique à la greffe de cheveux et donc au domaine médical. Mais sinon, pour ouvrir une société lambda d'achat-revente, etc., nous n'avons pas besoin de partenaires locaux.